On l'a appris cette nuit. C'est la grève pour ce qui est des employés de la SAQ. Donc, certains magasins, certaines succursales qui seront fermées aujourd'hui et demain. Ça va compliquer les choses pour ce qui est de la vente de vin, de spiritueux. C'est-tu juste moi ou depuis des lunes, les employés de la SAQ sont soit en grève ou en moyenne pression? C'est peut-être juste l'impression que j'ai. Pour nous en parler plus en détail, Marc Rangé est au bout du fil. Il est conseiller stratégique pour Ryan Affaires publiques et communications. J'adore l'appeler notre spécialiste en relations et en négociations syndicales. Marc, comment ça va?
Hey, salut à vous trois, ça va très bien.
Marc, c'est-tu juste l'impression que j'ai ou est-ce que les employés de la SAQ sont comme toujours soit en grève ou en moyenne pression? Il me semble qu'il y a pas mal plus souvent des collants dans vitre que pas de collants dans vitre.
Ben, c'est un peu des deux. C'est un peu aussi une impression parce qu'il y a deux syndicats différents à la SAQ. Donc, dépendamment, puis leur période contrat de travail ne se termine pas en même temps. Fait que il y a à peu près 2 ans, là, il y avait eu une grève qui concernait les gens d'entrepôt et le transport sur la route. Fait que donc, puis ce conflit-là, il y avait eu quelques jours de grève. Ensuite, il y avait eu entente de principe qui avait été battue par les membres. Je dirais même, le 2 ans, ça a été à peu près la première entente de principe qui a été battue d'une longue série depuis 2 ans qu'on voit d'ententes de principe qui sont battues. À la dernière, il y a quelques jours, Airbus Mirabel, là, mais ça, c'est un autre dossier, mais c'est pour montrer là, que, dans le fond, c'est assez difficile actuellement d'obtenir des ententes puis qu'ils soient ratifiées par les membres. Mais bref, c'est pour ça que on a l'impression à la SAQ qu'il y a beaucoup de conflits. Puis c'est vrai que du côté, si je prends les succursales, à chaque fois qu'il y a des moyens de pression, c'est automatiquement les autocollants. Oui. Donc, les gens se rappellent, là, parce qu'il y en a partout. C'est un affichage qui est massif. Fait que ça frappe un peu l'imaginaire. Fait que je pense que ça contribue à penser qu'ils sont toujours en conflit. Mais en même temps, les grèves, les vraies grèves à la SAQ, c'est quand même pas si... fréquent ça, puis normalement, ça ne dure pas si longtemps que ça non plus.
Marc, je sais que tu as creusé un petit peu pour nous par rapport aux négociations actuelles qu'il y a chez la SAQ. Qu'est-ce que tu entends? Et à quel point on est loin ou proche peut-être de s'entendre? Puis là, aujourd'hui et demain, on sait que les employés sont en grève.
Oui. Bien, j'ai parlé il y a peu de temps à la présidente du syndicat, Lisa Courtemanche, pour comprendre un peu les enjeux puis voir ce qu'il en était. C'est sûr, c'est le salaire. Elle, ce qu'elle me disait que j'ai un peu retenu, elle dit qu'à une époque, être employé à la SAQ, c'était un emploi de choix. Et les gens étaient heureux, étaient bien rémunérés. Puis avec les années, puis on l'a vu dans tout le secteur public d'ailleurs, là, les augmentations de salaire depuis 20 ans avaient été toujours inférieures à ce qui se négociait dans le secteur privé. Fait que veux pas, à un moment donné, tu sais, si je vous disais, là, si je lançais une petite devinette, là, mais quelqu'un qui est aux caisses à la SAQ, actuellement, là, quand il rentre, le salaire d'entrée, c'est 21,50 $. Fait que je ferais pas de devinette, là. Mais c'est 21,50 $. Tu sais, quand on sait que le salaire minimum, bon, va passer à 15,75 $ le 1er mai. Fait que, tu sais, l'écart est pas si grand que ça pour avoir un emploi syndiqué dans une société d'État. Fait que, donc, elle me disait qu'avec les années, cette attraction-là du salaire, c'est perdu. Mais moi, je dirais, quand je regarde le gros problème, ça n'a pas de maudit bon sens qu'il y ait autant de postes à temps partiel. Puis tu sais, j'ai fait un petit jeu, là, regardais avant d'entrer en onde, là. J'ai pris la convention collective, là, des statuts d'emploi, là. Ça veut dire, bon, quand tu rentres à la SAQ, là, ben, tu peux être un employé permanent. Je vais vous les nommer, c'est pas bien long. Tu peux être un employé régulier bureau. Tu peux être un employé régulier, qui est un autre statut. Tu peux être un employé à l'essai. Tu peux être un employé à temps partiel. Tu peux être un employé à temps partiel 7-20. Tu peux être un employé saisonnier. Je veux dire, ça finit plus les emplois. Oui. Et je regardais. Puis là, la présidente me disait que c'est à peu près 70% de postes à temps partiel. Moi, j'ai pas pu vérifier avec la SAQ, là, mais elle me disait que c'est à peu près ça, 70%. Mais je regardais la façon d'attribuer les horaires de travail. J'ai jamais vu dans ma carrière un processus aussi complexe. C'est des pages et des pages et des pages. Et je lui ai dit à la présidente du syndicat, j'ai dit, écoute, c'est très bien écrit, là, votre contrat de travail, mais c'est complexe, c'est d'une complexité phénoménale. Puis, je me suis amusé à parler aussi à deux directeurs de succursales. Il y en a au-dessus de 400, fait que c'est pas bien, bien représentatif. Mais pour essayer de comprendre un peu le mode d'assignation, puis ils font les horaires. Évidemment, ils les font sur une base régulière, mais pour attribuer les postes, ils les font dans la période la plus creuse de l'année, en janvier. Fait qu'ils partent d'une base d'horaire de travail qui est pas représentative du flux de clientèle, des périodes qui sont un peu plus achalandées aussi.
Comme, mettons début décembre.
Oui, c'est ça. Non, ils prennent la période la plus tranquille de l'année, puis ils fabriquent les horaires à partir de là. Fait que j'ai dit à ces deux directeurs de succursale-là, j'ai dit, ça n'a pas de maudit bon sens, quel business ferait ça de mettre sur pied des horaires à partir d'une période qui est creuse, alors que vous, c'est pas vrai que vous connaissez pas vos achalandages, là. Tu sais, c'est vraiment, il y a un historique qui est important. Fait qu'il était aussi d'accord avec moi. Et fait que ça, c'est un problème de voir comment amener plus de stabilité dans les, non seulement les horaires, mais les postes, la structure de postes, pour faire en sorte aussi que tu aies moins de roulant ou tu aies moins de précarité. Mais tu sais, tout n'est pas blanc ou noir parce que je parlais à des employés de succursale, il y en a qui souvent ont beaucoup d'ancienneté, plus d'ancienneté, puis ils veulent pas travailler à temps complet, donc ils veulent choisir des horaires. Mettons, moi, je veux travailler 20-21 heures par semaine, ça fait mon affaire. Fait que je vais prendre des horaires qui sont correspondants à ce que je veux. Fait que, bref, il y a un équilibre à trouver là-dedans. Ça, c'est un des enjeux de la négociation. C'est plus de stabilité, moins de précarité d'emploi. Bien sûr que le salaire est un enjeu. En même temps, vous le savez, là, eux autres, leur convention collective à la SAC a été échue l'année passée, 31 mars 2023. Fait qu'on sait que les augmentations de salaire en santé, en éducation, dans le secteur public, ça a été 6 % en 2023, puis c'est 2,8 % cette année. Fait qu'on peut s'attendre. Je pense pas que ça bloque là-dessus, parce que c'est des très belles augmentations de salaire. Puis, fait que ça va beaucoup ressembler à ce qui s'est donné tout récemment dans le secteur public au niveau des salaires. Mais je pense que c'est vraiment stabilité d'emploi. Je sais qu'on me disait aussi que le syndicat va avoir, vous savez, des conseillers en vin, là. On dirait qu'on en voit de moins en moins dans les succursales qui sont vraiment attitrés à ça. Bien, le syndicat souhaite avoir une personne qui est conseillère en vin dans chacune des succursales. Il y en a plus de 400. Fait que ça, c'est un des gros enjeux. Puis ça, je vais faire une petite devinette, là. Un conseiller en vin, normalement, une formation accréditée, commence à combien à l'SAQ? Je vous pose la question.
Fait qu'on avait 21,50 pour la personne à la caisse qui commence. Je vais y aller avec un 28.
Moi, je serais avec un 24,50.
26.
Ouf! Ben là, t'es dessus, là. 24 et 14.
Okay. Ah! Hey, mais l'écart n'est pas grand entre non, les deux pour la spécialisation que ça demande.
Absolument. Tu vois, la personne qui est aux caisses commence à 21,50, puis le salaire le plus élevé, c'est 28,15. Okay. Alors qu'un conseiller en vin commence à 24,14, puis le salaire le plus élevé, quand tu regardes l'écart de fin, c'est 31,51. Fait qu'entre 28,15 et 31,51, il n'y a pas un très grand écart.
C'est vrai.
Mais fait que ça, c'en est un enjeu aussi de la négociation, mais je pense que vraiment toute la question de l'attribution des horaires, tout ça, je suis convaincu que l'employeur va tenter de vouloir simplifier ça. Et puis que du côté syndical, on va tenter de faire en sorte d'amener un petit peu plus de stabilité. Mais le syndicat a voté une banque de 15 jours de grève. Là, on parle d'une grève aujourd'hui et demain. C'est deux jours. Fait que, tu sais, ils ne parlent pas de grève généralisée.
Ouais, ouais.
Je m'attends pas à un conflit qui va être très, très long. Même le PDG de la SAC cette semaine à l'étude des crédits, lui est optimiste aussi par rapport à un règlement. Mais on va voir ce qu'il va en trouver. Là. On va voir si vraiment... Il y a une possibilité après ces deux jours-là. Moi, ce qu'on me dit, c'est que ça continue à négocier quand même intensivement, ce qui est toujours un bon signe.
Marc, moi, je me dis que c'est sûr que les gestionnaires aussi, puis là, ils ne diront pas, mais en dessous de la couverte, souhaitent qu'il y ait plus de gens à temps plein parce que pour avoir déjà fait des horaires, là, et crime qu'ils doivent se casser le bicycle à 30 % à temps plein, ça doit être épouvantable. Mais je veux qu'on parle d'un autre dossier avant qu'on finisse avec toi. Oui. C'est le dossier de Santé Québec. Parce que c'était dans le soleil de cette semaine, on mentionnait qu'il y avait plusieurs embûches dans le transfert des employés, dont les augmentations salariales. Puis ça, honnêtement, je trouve que c'est un enjeu hyper important parce qu'il y a plein de gens dans ce transfert-là qui se retrouvent hors échelle, donc qui vont bénéficier d'augmentations salariales beaucoup moins que s'ils demeuraient au niveau du ministère de la Santé.
Oui, absolument. Puis sachant là, qu'on allait parler de ça, vous m'aviez levé le flag là, un peu. J'ai parlé au président du syndicat des, des professionnels du gouvernement du Québec qui donnaient hier, il était à RDI, Guillaume Bouvrette, de cette situation-là. Fait que je lui ai parlé hier. Oui, c'est un vrai problème parce qu'évidemment, là, tu crées Santé Québec et ça va être au-dessus de 300 000 employés. C'est,
wow.
C'est incroyable oui. comme ampleur d'employeur. C'est pour ça que quand on disait que le salaire du PDG, ça n'avait pas de bon sens, moi, je ne suis pas de cette école-là. À un moment donné, c'est quelque chose de très, très gros. Dans le secteur privé, dans des jobs de responsabilité, t'as des salaires qui sont beaucoup plus élevés que ça. Bien sûr que c'est important comme rémunération, mais quand je vois des fois des syndicats qui critiquent ces salaires-là de PDG de société d'État, arrêtez un peu, là. À un moment donné, les syndicats aussi veulent des bonnes augmentations de salaire, des traitements qui sont corrects. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Mais si je reviens, la question du transfert, là, ça va être à peu près 500 professionnels qui sont au ministère de la Santé, qui vont être transférés dans la nouvelle structure de Santé Québec. Puis effectivement, ce qui est prévu dans ces cas-là, c'est que la personne, là, ben, si elle est plus haut en rémunération, elle va être comme plafonnée, puis elle n'aura pas droit aux pleines augmentations de salaire. Puis tu sais, c'est un écart de 14 % entre ta job comme analyste au niveau du ministère de la Santé, puis là, tu es transféré à Santé Québec, tu as la même Moses de job, mais comparable. Quelqu'un qui était déjà à Santé Québec gagne 14 % de moins, bien, ça peut te prendre 7, 8, 10 ans avant d'avoir droit aux pleines augmentations de salaire parce que tu vas être capé puis tu vas avoir des augmentations de salaire moitié moindres pour ralentir ta progression jusqu'à temps que les salaires se rejoignent, ce qui n'a pas de sens. Mais je sais que il y a des. Dans le fond, il y a des représentations qui sont faites pour essayer de corriger le tir. Puis le ministre Dubé, on le voit, là, il y a une pression énorme pour réussir la transformation. On l'a vu cette semaine donner des entrevues. Et puis, une des conditions gagnantes, c'est que c'est bien beau ces règles-là, mais voir que tu renégocies pour s'assurer de protéger les conditions de travail dans le transfert. Puis là où il y a un problème, c'est que, souvenez-vous, là, le ministre Dubé avait dit, moi, là, je vais faire le ménage des accréditations syndicales en santé. Quand je vais créer Santé Québec, là, je vais créer 6. Je veux simplifier, là, mais 6 catégories d'emplois. Puis dans chacune de ces catégories d'emplois-là, il y aura juste un syndicat. Il n'y aura pas 2, il n'y aura pas 3. Il va en avoir un à travers la province. Bien, moi, je pense qu'il y a moyen dans les compromis. Si je reviens au SPGQ, donc les professionnels du gouvernement du Québec, ce syndicat-là, de conserver leur accréditation. Moi, je pense que le fait qu'il y ait plusieurs syndicats qui représentent des membres en santé, c'est un gage de... Tu sais, j'ai passé toute ma carrière là-dedans. Dans d'autres provinces, tu as beaucoup moins de syndicats. Au Québec, tu as une pluralité de syndicats. Puis ce que ça a comme avantage, c'est que quand tu sais que tu peux perdre des membres parce que tu fais pas ta job, tu as fait ta job de représentation. Tu fais en sorte que les membres soient satisfaits. Puis les membres, c'est important qu'il y ait un choix. Fait qu'une des solutions dans le transfert des professionnels vers Santé Québec, ces 500-là, là, ben une des solutions, c'est qu'ils gardent leur accréditation et leur convention collective. C'est très, très vivable de faire ça. Puis de pas faire tout le ménage. Tu sais, le ministre Dubé, je pense pas qu'il y ait le luxe qu'il y ait une guerre syndicale d'allégeance syndicale dans le secteur de la santé pour les prochains 18 mois, que ce soit dans les autres catégories d'emploi aussi. Fait que c'est viable. Ce qu'il faut voir, c'est le mode de négociation en santé, en éducation. On l'a vu, là, tout le monde parlait de psychodrame, là. Le mode de négociation est à revoir parce qu'il est trop lourd, trop complexe. Fait que ça, il faut trouver à le simplifier. Mais je pense qu'une des solutions pour protéger les conditions de travail, c'est de dire, regarde, vous êtes couvert par le SPGQ, vous allez continuer à être représenté par votre syndicat. On applique votre convention collective. Puis la prochaine ronde de négociation, s'il y a des emplois où il y a des écarts importants de 10 ou 12 %, bien, les autres syndicats se battront pour avoir la parité au niveau du... dans le fond, du salaire, pour pas qu'il y ait ces disparités-là.
Marc Ranger est conseiller stratégique pour Ryan Affaires publiques et communications. Il est spécialiste en négociation syndicale. On l'apprécie énormément et on apprécie surtout, Marc, que tu es allé creuser un petit peu plus dans ces dossiers-là pour nous.
Ben, ça fait grand plaisir. Ça a été un peu plus... j'espère que j'ai réussi à vulgariser un peu.
Absolument, tu le fais toujours si bien. Okay.
Ah ben, parce que des fois, je me comprends pas moi-même.
Hey Marc, bon, merci, on se parle bientôt.
Hey, faites attention aux autres. Bye.
Merci, toi aussi, Marc Ranger.
Rapidement, il a raison, Marc. T'sais, quand tu fais des grands changements, comme le ministre Dubé en santé, là, tu te dois de t'allier avec les syndicats pour réaliser le changement. T'sais, ça fait partie du fameux PODC. Là. On planifie, on organise, on dirige, puis on contrôle. Mais ben, dans la planification, tu n'as pas le choix de jouer ce jeu-là. Puis là, j'en entends plusieurs dire « Ouais, mais c'est encore les syndicats qui mènent, t'as dit ça. » Sachez que moi, j'ai géré les employés syndiqués. Là. puis que la convention collective, là, c'est une négociation entre l'employeur puis le syndicat. Et il y a des points positifs pour l'employeur aussi, absolument, pour le gestionnaire. Donc, c'est pas vrai que c'est juste le syndicat qui contrôle. C'est vrai que le syndicat emmène large, mais dans une convention collective, il y a toujours des points à l'avantage de l'employeur. Donc, c'est pour ça que le ministre Dubé aurait avantage à s'asseoir avec eux puis à construire le changement avec eux et non pas tenter d'être en confrontation comme il est à l'heure actuelle.
Encore une fois, un immense merci à Marc Rangé. Maintenant, après la pause, autre Marc Tanguay, qui est le chef par intérim du Parti libéral du Québec. Il voulait, demandait plus de détails par rapport aux 7 millions pour la venue des Kings ici à Québec. Est-ce qu'il est content avec les réponses qu'il a obtenues? On va lui demander. Il va être en studio avec nous. Bougez pas. Rick